France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Quand on a rencontré notre mère porteuse, on était beaucoup plus intimidés qu'elle. C'est un ami qui m'a raconté, quand je lui ai demandé de m'expliquer sa GPA faite aux États-Unis, la mère porteuse et sa famille étaient très décontractées, famille plutôt aisée, trois garçons déjà, deux couples avant celui de mon ami, hétéro ou homo. Ils sont méthodistes, ils vont à l'église, ils habitent un état très largement républicain. Et ça a été le premier étonnement de mon ami, désormais papa, les questions éthiques que l'on se pose, nous, sont très différentes des leurs. Dans ce pays puritain en diable qui ne met pas toujours l'avortement dans le droit des femmes à disposer de leur corps, s'agissant de la GPA, c'est donner la vie qui l'emporte. Comme si les conditions, le cadre légal, tout cela était finalement au second plan. Notre débat, à nous, est tellement différent. Il est éthique, il est féministe, il est vif aussi. Chez nous, l'opposition de la GPA traverse tous les courants politiques, divise donc les féministes, divise aussi les églises et vous divise aussi, vous, au standard. C'est pour ça que c'était finalement assez gonflé de la part de Gabriel Attal de demander à son groupe de réfléchir à une légalisation de la GPA en France. Le chemin, il est très long, même quand on s'entoure de précautions en parlant de GPA éthique. Nous sommes focalisés sur deux exemples opposés. L'exemple indien, où les femmes pauvres louent leur ventre, l'usine à bébé, comme on dit, et c'est sordide. L'exemple californien où tout est contractualisé comme un rendez-vous chez le notaire. Et pourtant, un enfant aujourd'hui né de GPA est inscrit à l'état civil nettement plus naturellement qu'il y a quelques années. Il n'y a plus de risque de poursuite pénale, notamment ça a été le cas. C'est difficile de compter, mais il y aurait, et je parle sous le contrôle de nos invités, autour de 300 enfants GPA en France par an. C'est peut-être le double d'ailleurs, parce que le chiffre exact, évidemment, on ne l'a pas. D'autres formes de famille existent aujourd'hui, d'autres formes de parentalité. On a décorrélé le systématisme de famille et procréation. Il y a des exemples autour de nous, au Danemark, au Portugal, au Royaume-Uni, qui sont bien moins sordides que l'Inde ou certains pays d'Europe de l'Est. Donc le choix des mères porteuses, le droit à la rétractation, l'indemnisation qui n'est pas une rémunération, savoir à qui l'enfant que l'on porte est destiné, l'obligation d'habiter là où on est l'enfant ou pas. Est-ce qu'on doit y réfléchir à ce problème ou est-ce qu'on ferme la porte? C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Céleste, vous êtes la première et vous êtes la bienvenue. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Eh bien, déjà, pour moi, je pense que la GPA ne peut pas être éthique. Parce que pour moi, la GPA, ça veut dire pas simplement avoir un enfant, mais ça veut dire avoir son enfant, dans le sens où on n'est pas dans une adoption, on ne va pas choisir, enfin en tout cas prendre un orphelin, on va choisir une génitrice. Je ne parlerai pas de mère parce que pour moi, il n'y a pas de sujet de mère. On va éventuellement apporter ses gamètes. Et pour ça, pour ce désir-là, qui à mon sens est un peu égoïste, on est prêt à tout et en particulier, on est prêt à acheter le corps des femmes. Dans votre introduction, vous avez parlé des États-Unis. Aux États-Unis, une GPA, ça coûte entre 100 000 et 150 000 euros. Donc, c'est quand même un choix qui est réservé à peu de gens. Et c'est pour ça que, d'après moi, c'est vraiment l'expression du libéralisme qui s'appuie sur l'exploitation du corps des femmes et pas n'importe lesquelles. Je pense que l'exemple que vous avez donné, il est marginal. Il y a beaucoup de scandales sur des cliniques où on attire des femmes, par exemple, qui sont victimes de migration, qui vivent dans des pays en guerre, où on leur demande de porter les enfants des autres dans des conditions insoutenables. Et je conclurai en disant que pour moi, la GPA, ça n'est rien d'autre que la vente d'un enfant et l'exploitation du corps des femmes.
Merci pour votre intervention, Céleste. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous nous avez dit, mais précisément, quand on parle d'éthique, c'est pour essayer de faire en sorte que ces excès-là disparaissent, et parce que des excès, bien sûr qu'il y en a. Mais on va revenir, Céleste, sur chacun des points que vous avancez, puis surtout sur ce que ça provoque chez vous tous qui nous écoutez, pour en discuter ensemble autour de la table. Il y a Emmanuel Hirsch qui est là, bonsoir. Vous êtes professeur émérite d'éthique médicale. Il y a Ariane Nicolas, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à Philosophie Magazine. Vous avez écrit une tribune dans votre journal il y a quelques mois qui a attiré notre attention. Vous expliquez d'ailleurs pourquoi vous avez changé d'avis. Ça nous intéresse, les gens qui changent d'avis sur la GPA. Il y a Alexandre Urvitch, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes cofondateur et président d'honneur de l'Association des familles homoparentales. Et vous avez deux enfants qui sont nés de GPA avec la même mère porteuse et ça s'est passé aux États-Unis. qu'on soit pour ou qu'on soit contre, qu'on soit outré ou qu'on s'interroge, il y a peut-être un certain nombre de choses qu'il faut dire et qui sont des choses qui sont objectives. D'abord, 100 à 150 000 euros, est-ce qu'on peut répondre à cette question? Est-ce que c'est oui aux États-Unis la moyenne, Alexandre Hurwitz? Est-ce que une GPA aux États-Unis coûte cette somme-là? Première chose.
Alors, elle peut coûter effectivement cette somme-là. Il faut quand même rappeler que l'argent qui finalement va bénéficier à la femme qui va porter l'enfant est loin de cette somme-là, puisque c'est essentiellement les intermédiaires qui vont en bénéficier,
hein,
la clinique, les avocats, les médicaments, hein, puisque là-bas tout est évidemment tout est à financer. Voilà, donc depuis 15 ans, cette somme ne fait qu'augmenter. Il n'y a pas que le cours du dollar qui joue. Et je rappelle simplement à votre auditrice qu'il y a des pays comme l'Angleterre ou le Canada où la rémunération de la femme porteuse est interdite. Donc il y a aussi des
parfois
modèles qui existent.
La Grande-Bretagne le plafonne, par exemple, entre 10 et 15 000 euros. Je ne sais pas si...
C'est d'ailleurs pas rémunération, c'est compensation.
Exactement.
C'est une indemnisation.
C'est déjà un terme qui est à prendre en considération par rapport à ce que représente le fait aussi
de faire ce travail. Encore une fois, hein, que éthiquement on soit contre... ou pas, c'est bien le débat qu'on va avoir, mais là encore, s'agissant des États-Unis, les comptes sont fermés, on paye des avocats, on paye jamais une personne, en fait, et ce qu'on paye, moi j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant, vous allez nous dire ce que vous en pensez, vous aussi, Monsieur Hirsch, du côté de vos avec votre étiquette de professeur d'éthique, ce qu'on paye, c'est évidemment ce qui est inhérent aux, je veux dire, les habits de grossesse, etc., enfin, évidemment, les médicaments, les avocats, et les États-Unis rémunèrent le travail de la personne qui donc va devoir quitter son travail le temps de sa grossesse, sachant que les congés maternité aux États-Unis n'existent pas de la même manière.
J'aimerais être à la hauteur tout à fait des propos de Céleste.
Étonnant, en fait.
J'ai trouvé remarquable dans son analyse et sa documentation. Il faut dire que le marché, et on ne va pas rester sur les questions uniquement de marché, c'est 21 milliards de dollars, en quelque sorte, aujourd'hui, avec une projection dans le temps, puisque la question de la fertilité, c'est des questions importantes qui se posent notamment dans nos pays développés. Je voulais juste revenir sur la question, est-ce qu'il peut y avoir une GPA éthique ? Aujourd'hui, si on est factuel, aucune des instances éthiques nationales en France, le comité d'éthique s'est prononcé par deux fois, en 2010 et en 2017, défavorable. Et on est même pour une tendance à l'abolition. Et je donnerai juste un texte qui m'a semblé un texte de référence, et je ne prendrai pas parti. Et je pense qu'il y a d'autres expertises autour du micro pour parler d'une manière peut-être plus savante. J'ai été frappé, vraiment frappé, par le rapport publié par l'ONU le 14 juillet dernier sur violence aux femmes et aux filles, avec un chapitre documenté. Tout à l'heure, Fabien Tindès vous disait on a peu de documentation. Là, c'est un travail scientifique avec une méthodologie.
Je disais on a peu de documentation sur le nombre de GPA qui sont d'enfants GPA en France.
Et là, je crois que ça pose véritablement une question fondamentale en termes de dignité. Je ne parle pas uniquement de commercialisation. Je ne parle pas des règles d'éthique. Les règles d'éthique, c'est la confidentialité, le volontariat, le consentement. Il y a tout un ensemble de règles sur lesquelles on pourra revenir, les grands principes de l'éthique. Mais la dénonciation que fait l'ONU de ce qui se passe dans des pays...
Et ils ont raison, mais du coup, moi, ce qui m'interroge, c'est... Ça veut dire qu'on ne peut pas passer au-delà, en fait, Ariane Nicolas. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a des excès terrifiants dans des pays comme l'Inde, dans d'autres pays asiatiques parfois, dans certains pays d'Europe de l'Est, donc il faut considérer qu'on ne saura jamais faire, en fait.
Au contraire, j'ai l'impression que si certaines personnes, maintenant dont je fais partie, plaident pour que ce soit légalisé, c'est justement pour éviter qu'il y ait des excès dans les autres pays. Et c'est faire en France ce qu'on a trop longtemps délégué à des pays qui sont effectivement en difficulté économique et où les femmes particulièrement ont parfois comme destin justement seulement de, effectivement, entre guillemets, vendre leur corps. Moi, je suis un peu gênée quand j'entends parler de la question de la dignité, parce que c'est une notion qui est fondamentale, qui est même constitutionnelle, mais je ne vois pas en quoi faire un don est indigne. Moi, en tant que femme, si j'ai envie de porter cet enfant, et on a des études qui montrent qu'aujourd'hui, à peu près 40% des femmes, c'est une étude qui est vraiment faite par l'IFOP et qui est très contre-intuitive, mais il y a 40% des femmes qui sont prêtes à faire la GPA en France. C'est-à-dire qu'il y a une attente, même, d'une certaine manière, parce qu'il y a une compréhension de l'enjeu global que c'est, et pour la société, et pour tous les individus, que ce soit des femmes ou des hommes, qui ont envie d'un enfant et qui ne peuvent pas en avoir.
Vous, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Est-ce que vous, d'emblée, vous étiez...
plutôt tendance céleste, en fait. De fait, exploitation, évidemment, du corps de la femme.
Oui, c'est parce que quand on est une femme, on a toujours cette question de savoir que est-ce que mon corps m'appartient, ou est-ce qu'il appartient à la société, ou est-ce qu'il appartient à mon conjoint, à mes parents, à mes frères. Il y a quand même... On a toujours ce soupçon. Donc moi, je l'avais, on va dire, naturellement. Et puis, en fait, je suis pas là pour parler de moi, mais il se trouve que ça vient d'une expérience personnelle. J'ai fait un don d'ovocytes. Je l'ai fait il y a à peu près 2 ans. Donc, j'ai donné une partie de mon appareil reproductif de manière anonyme, puisque c'est comme ça que ça se passe en France. Et je me suis dit, c'est étrange que je puisse avoir à ce point le droit, et je trouve que c'est tout à fait noble de l'avoir fait. Enfin, je ne suis pas la seule, on est 2000 à peu près à le faire chaque année en France. Pourquoi est-ce que j'ai le droit de le faire, et pourquoi est-ce que je peux donner un enfant en devenir, puisque cet ovocyte-là, il va devenir un embryon, en tout cas je l'espère. Et pourquoi est-ce que, par contre, mon utérus est quelque chose qui, pour le coup, ne m'appartient plus. Là, d'un coup, toute la société me dit non, ça n'est pas à toi, là, tu n'as pas le droit. J'ai trouvé qu'il y avait une contradiction, et puis du coup, j'ai réfléchi. Je me suis dit que même en tant que féministe, en fait, ça m'appartenait, et c'était aussi quelque chose que je pouvais revendiquer.
Je me permets juste une observation par assimilation au don d'organes. On peut dire que c'est un acte de solidarité, et j'ai du mal à voir les gens qui refusent aujourd'hui le don d'organes. L'utérus, dans le contexte, en quelque sorte des pratiques, vous parlez, vous êtes en France, dans un contexte, j'imagine, assez sécurisé, quand on voit la conséquence pour les femmes qui sont devenues aussi des victimes, et je ne mets pas en cause, encore une fois, le principe de la GPA, je regarde juste les conséquences. Donc, juste les réserves que l'on fait, c'est pas uniquement sur la GPA en soi, c'est sur les conséquences des pratiques aujourd'hui. Et donc, c'est bien quand on est autonome, quand vous allez avoir un service de santé, quand on vous imposera pas, j'allais dire, des procréations multiples, enfin, regardez la réalité concrète. Donc, c'est bien cet idéal, mais je termine sur un point pour dire, il n'y a pas aujourd'hui une instance éthique qui est favorable. On est même plutôt dans un courant d'abolition, et l'Italie s'est prononcée récemment, puisqu'aujourd'hui c'est considéré comme un délit. Donc soyons très très concrets.
Avec ce qui se passe en Italie en ce moment.
Et
ce qui n'est pas le contexte habituel aussi d'Italie.
Oui, mais c'est important. Effectivement, il y a un contexte américain qui est d'ailleurs aussi un autre contexte aujourd'hui depuis l'élection de Trump. Moi, ce qui m'interroge dans ce qu'on entend autour de cette table-là depuis une dizaine de minutes, Alexandre Urvich, c'est qu'on n'est pas contre le principe, mais on a peur des mauvaises pratiques.
Oui, parce
et je suis un peu étonnée de ça, en fait, parce que... il suffit de l'interdire à l'extérieur du territoire français, il suffit de dire aux parents qu'il y aura une incapacité, une impossibilité à donner un état civil de manière légale et facile si l'enfant était conçu par GPA je ne sais où, et on règle pas mal de problèmes. Non, j'ai un peu du mal à comprendre en fait,
si vous voulez,
principe, mais contre la manière dont ça peut être fait.
Le débat, et on le voit bien d'ailleurs sur le rapport de l'ONU, moi je rappelle quand même que ce rapport de l'ONU n'a rien du tout de scientifique, parce qu'il n'a pas été fait d'ailleurs par une scientifique, au passage, elle a juste une maîtrise sur les droits humains, cette rapporteure spéciale, et j'ai lu le mandat, en fait, que l'ONU avait donné à cette femme, et le mandat, il est cantonné à l'environnement numérique. Donc je dis bien environnement numérique. Donc, par là, j'indique simplement qu'elle a dû trouver un biais pour faire valoir un peu ses convictions. Dans son rapport, il y a plein d'associations et d'organisations pro-GPA qui ont contribué, elle n'en a cité aucune. Aucune. En revanche, elle liste toutes celles qui sont anti-GPA. Donc, si vous voulez, moi, la démarche scientifique là-dedans, je ne la vois pas. Quant à l'idée d'aller interviewer ou rencontrer des mères porteuses, ça n'existe nulle part dans son rapport. Donc, pour moi, c'est quand même un biais relativement important. Pour répondre à votre question, le problème, c'est lorsqu'on montre le pire... et qu'on fait croire que le pire fait légion, eh bien ensuite on tombe dans un débat qui devient horrible et qui devrait entacher tout le reste. Mais la réalité, c'est que la majorité des GPA aujourd'hui, faites à l'étranger, évidemment dans les pays qui l'encadrent, on n'a pas ces histoires sordides. Je prends juste un exemple. Si cette rapporteure, juste 30 secondes, si cette rapporteure avait fait un rapport sur les violences obstétriques, elle aurait conclu en disant « Ah bah, il faut vraiment interdire les gynécos aux femmes, parce que là... c'est pas possible, il y a des violences qui sont faites aux femmes et aux filles. » Donc on peut pas regarder par ce prisme-là. Il faut avoir une démarche d'ouverture un peu plus importante, un peu plus grande, et une démarche scientifique pour aborder ces sujets. Les études existent.
Ça a été fait juste, et je vais pas en revenir.
On va entendre les auditeurs.
Ça a été fait dans un recoin, ça a été l'Assemblée Générale de l'ONU. Mais vous avez d'autres positions qui corroborent. Vous avez la Convention de Casablanca, vous avez au niveau européen, et au niveau des textes de bioéthique, et je termine sur un point quand même qui est important. Quand on parle des principes de la bioéthique et faire un travail de sentinelle en matière de bioéthique, c'est aussi ce qui fait société. Qu'est-ce que c'est le sens d'une naissance? Qu'est-ce que c'est le respect de la femme? Qu'est-ce que c'est la procréation? Ça pose aussi ces questions-là. Et soyez attentifs, il y a une réflexion de fond notamment à travers les premières lois de bioéthique en 1994, il y a une réflexion de fond sur la dignité, puisque d'un geste de la main, vous réfutez la question de la dignité. Mais c'est dans le Code civil, soyez attentifs, à l'article 16.7, la non-patrimonialité du corps, la gratuité, tout un ensemble d'éléments de fond, c'est la structure. Alors on peut très bien dire que tout ça est discutable et relativisé, on le voit en matière par exemple de fin de vie, mais je dis on peut le rappeler. Et que demain, il y ait une évolution, et je termine
sur
la question que vous posez,
s'il vous plaît,
il y aura des évolutions.
Le principe du téléphone sonne, c'est vraiment qu'on écoute des auditeurs, et j'imagine aussi que le principe de choses qui sont écrites tout en 1994, y compris au comité d'éthique, c'est que après, elles bougent, 30 ans après, quand il le faut ou pas. C'est Catherine qui est avec nous, bonsoir Catherine.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Merci. Oui, moi je souhaite intervenir parce que au sein de la GPA, il y a aussi de venir en aide à toutes ces jeunes femmes qui sont assez nombreuses, qui sont nées sans utérus. Donc elles peuvent avoir un enfant, mais elles ne peuvent pas le porter. Le don d'utérus est très très difficile, c'est une très lourde intervention et pour la donneuse, etc. Si on compare par exemple au don d'organes, dans le même processus, on pourrait encadrer une GPA et solliciter des personnes prêtes à ce partage. Parce que oui, je crois qu'il y a une grosse discrimination pour celles qui peuvent aller aux États-Unis ou à l'étranger, n'est-ce pas, avec des sommes lourdes et qui sont bien sûr impossibles à rassembler pour certaines. Et j'ai aussi une réflexion, n'avons-nous pas fait de grosses erreurs ces dernières années dans les adoptions que l'on faisait à l'étranger, et là on parle de la pire des marchandisations du corps de la femme. Et ça, je crois qu'il faut l'éviter à tout prix. Dans ce sens, bien sûr, de la GPA, et je suis sûre que l'on peut trouver dans notre pays un cadre sécurisant pour cela.
Merci pour votre appel, Catherine. On va rappeler Ariane Nicolas, je vois que vous voulez prendre la parole, tant mieux. Au Portugal, par exemple, la GPA existe sous critères médicaux. Et typiquement, une femme qui n'aurait pas d'utérus a le droit à une GPA, exactement pour ces raisons-là, Ariane Nicolas.
Oui, tout à fait. En fait, j'ai l'impression que depuis des années, le débat il a été posé, on va dire, dans un sens unique. C'est est-ce que les hommes homosexuels ont le droit de faire appel à la GPA? C'est comme si on avait oublié que la GPA, en fait, peut bénéficier évidemment à eux, mais aussi à un tas d'autres personnes, des couples de femmes éventuellement qui ne pourraient pas en avoir, des femmes seules, et pourquoi pas des hommes seuls qui voudraient des enfants. C'est évidemment un cas auquel on pense très peu, mais on sait qu'aux États-Unis par exemple, c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Donc il faut vraiment d'abord, je pense, partir de la question de cette femme qui, en conscience, peut-être parce qu'elle a déjà une grossesse, parce que si c'est encadré, ça veut dire ne pas faire 10 grossesses par GPA, mais peut-être une ou deux, parce que ça n'est pas rémunéré, etc., va pouvoir, on va dire, flécher son don. C'est ce qu'on fait, par exemple, dans certains cas de dons, comme le don du rein, et choisir et savoir à qui ce don va profiter, et y compris à des profils auxquels, aujourd'hui, on a du mal à penser. Je pense, par exemple, il y a beaucoup de femmes qui souffrent d'endométriose. Et parfois, la seule chose à faire, c'est l'hystérectomie parce que c'est trop douloureux. Vous allez dire à ces femmes, bah, désolé, non, t'auras pas d'enfant parce qu'en fait, non, la GPA est interdite. C'est évidemment quelque chose qui a un crève-cœur.
C'est ça qui est intéressant quand même, parce qu'effectivement, on a cet exemple sur les familles homoparentales, Alexandre Hurwitz, vous n'allez pas me contredire, mais quand on regarde aux États-Unis, par exemple, où effectivement la GPA est très répandue, elle est répandue pour les couples homo comme pour les couples hétérosexuels.
Oui, ça reste d'ailleurs un peu majoritaire pour les couples hétérosexuels.
Ah, ouais. Ouais. Est-ce que ça ne fait pas partie des choses qu'il faut aussi mettre sur le tapis, au fond?
Mais on le voit, vous avez tout à fait raison, on le voit d'ailleurs très bien dans un sondage qu'on avait fait avec l'IFOP en 2022, où on voyait que 75% effectivement des Français et des Françaises étaient favorables pour les couples hétérosexuels, et 59%, ce qui est déjà bien, hein, mais pour les couples homosexuels. Et on s'est dit que la différence s'expliquait peut-être par l'homophobie, tout simplement, puisque ce sont des personnes qui validaient le principe pour des hétérosexuels, mais voulaient l'interdire pour des homosexuels. Donc vous avez raison, et cette différence-là, elle existe encore aujourd'hui. Rappelez-vous Simon Porte-Jacquemus, il y a quelques mois, lorsqu'il a annoncé ses naissances, rappelez-vous les réactions dans l'extrême droite, etc. Donc on voit bien que cette homophobie, elle existe toujours, on ne peut pas la supprimer, on peut la cantonner, on peut la conditionner à des textes de loi, on peut la faire condamner, mais elle est présente.
Alors, vous aviez dit quelque chose, Fabien Synthèse, très important, sur le Portugal, c'était la dimension médicale.
Oui.
Alors vous dites, effectivement, on a évolué, tant mieux qu'on a évolué, mais au départ, la procréation était fait pour des couples qui présentaient un problème de stérilité ou pour des dangers à la naissance de l'enfant. Je circonscris ce problème. L'évolution marquante, pour dire que ça a évolué aussi au niveau de la loi de bioéthique, donc on n'est pas statique,
bien sûr,
ça a été le vote de la loi du 13 mai 2013, hein, qui ouvre le mariage aux personnes, aux couples de personnes du même sexe.
Et l'adoption.
Et, voilà. Et donc vous avez toute une déclinaison ensuite dans la loi de bioéthique de 2021 sur l'assistance médicale à la procréation. Qu'on ne confonde pas ce droit à l'assistance médicale à la procréation au droit à la GPA. C'est deux éléments, à mon avis, distincts. Et c'est pour ça que je circonscris le problème, pour moi, d'un point de vue éthique, non pas le droit à la GPA en soi, mais les conséquences, l'encadrement possible. Est-ce que cet encadrement est possible? Est-ce qu'on est dans la commercialisation ou pas? Voilà. C'est ces éléments-là qui, jusqu'à présent, n'ont pas été
dépassés. C'est pour ça qu'il faut en débattre.
Et c'est pour ça que je citais le Portugal, parce que le Portugal, le Danemark, le Royaume-Uni ont des systèmes qui sont extrêmement encadrés et qui sont effectivement extrêmement spécifiques.
C'est l'altruisme, juste
le mot
important.
La grossesse
altruiste, c'est le don altruiste qui n'a rien à voir avec le don commercial.
Non, fait, non, mais absolument. Mais
admettons, est-ce que si moi j'ai un enfant avec un couple homosexuel que je mens par PMA, est-ce que je dois aller en prison? Je veux dire, c'est aussi... Et que je donne l'enfant, qu'on trouve une manière... Voilà, je ne dis pas que c'est forcément très bien, mais il y a quand même tout un tas de procédures qui sont faites par un peu sous le manteau, et je le sais aussi exactement pour la PMA, parce que le système n'est pas à la hauteur des attentes de la société.
Voilà, la PMA n'est pas la GPA. Moi, je me permets
bien
juste
sûr,
la distinction.
Mais on peut imaginer des situations où on fait des sortes de GPA un peu entre amis, etc.
On voit bien que les Français sont en avance sur le sujet. Hein. Ils ont toujours été en avance.
Souvent
depuis,
sur les sujets éthiques. Enfin, après, ça mérite discussion et ça prend du temps. Ouais, hein, on est d'accord là-dessus. Et c'est
donc par rapport à la thématique de l'émission, vous parliez tout à l'heure de la proposition de Gabriel Attal. Finalement, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Moi, je vous réponds, je vous dis, c'est le courage politique. C'est le courage politique, puisque les Françaises, d'ailleurs les Françaises, sont plus favorables à la GPA que les Français. C'est quand même intéressant.
On parlait de couple hétérosexuel, justement, tout à l'heure, pour éviter d'avoir, nous aussi, de rentrer dans une espèce de forme de caricature sur qui fait appel au GPA. Voici Karine qui est à Créteil, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Karine.
Ben voilà, moi j'ai eu la chance de bénéficier d'une GPA aux États-Unis il y a 9 ans en fait, il y a eu 9 ans le 24 août, donc voilà, et ça s'est merveilleusement bien passé. On est toujours en lien avec notre femme porteuse, notre surrogate comme ils disent, et voilà quoi, enfin... Ça a été merveilleux. Voilà, c'était une expérience humaine formidable.
Ben, écoutez, et vous êtes toujours en. Alors, comme ce sera la question qui vient, je vais peut-être la devancer un tout petit peu avec vous, Karine. Comment ça se passe? C'est quoi les relations entre. C'est votre fils ou votre fille?
C'est ma fille, oui.
Votre fille, pardon. Et la mère porteuse, quand vous dites que vous avez des contacts de temps en temps, est-ce que ça veut dire que vous avez expliqué très tôt, en fait, voilà les conditions dans lesquelles tu es née, voilà comment s'appelle, je ne sais pas comment s'appelle la femme avec laquelle vous avez...
Elle s'appelle Sacha.
Elle s'appelle Sacha. Voilà, Sacha, comment ça s'est passé, en fait?
Toute petite, en fait, dès lors, peut-être 2 ans et demi, ouais, peut-être à la petite section maternelle, parce qu'elle voyait des mamans en fait enceintes en fait à l'école, en fait, amener les enfants à l'école. Et donc voilà, on a eu cette discussion. Il y a des livres qui sont super bien faits. Et donc c'était une maman koala qui était, un couple de koala qui était triste, qui pouvait pas avoir de bébé dans leur poche. Et un médecin a dit, je connais une autre maman koala qui serait ravie de porter votre bébé, etc. Donc il y a des livres pour enfants américains qui existe en fait pour expliquer en fait, voilà.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Karine. Est-ce qu'on sait dire, encore une fois, pour couper court peut-être à certaines idées reçues, parce que je repense au témoignage de Céleste tout à l'heure qui nous disait il y a énormément de scandales, y compris aux États-Unis. Est-ce qu'on sait dire ça? Est-ce qu'on sait dire, dans certains pays,
études,
on le sait, il a raison, Emmanuel Hirsch, dans les pays où la GPA est rentrée dans les mœurs, on va dire ça comme ça, est-ce qu'on sait dire que ça se passe de manière décontractée ou que non, on est dans les procédures permanentes et dans des drames parfois avec les enfants qu'on a du mal à donner ou pas, etc. Est-ce qu'on sait dire ça?
En tout cas, ce qu'on sait dire, c'est qu'à partir du moment où ça a été encadré, ça a réduit considérablement tous ces problèmes qu'on peut entendre aujourd'hui dans les pays qui n'encadrent pas et où il peut y avoir un trafic. Et ça prouve bien, si vous voulez, que ces deux camps, le premier qui est abolitionniste, la GPA nulle part, et le deuxième qui est réglementariste, la GPA mais encadrée, ça prouve bien justement que l'encadrement réduit toutes ces filières.
Mais dans la notion,
ça, c'est veux dire, c'est dans tellement la notion évident.
D'encadrement, et je comprends ce que vous dites dans la notion d'encadrement. Prenez la Grande-Bretagne, puisqu'on a cité la Grande-Bretagne, où on est plus dans l'altruisme, hein, puisque c'est entre 8 000 et 20 000 euros. La femme qui a porté l'enfant peut, 6 semaines ou 6 mois, enfin, après la grossesse, revenir sur sa position.
Mais ça, c'est un mauvais...
Ouais, non, mais c'est pas... Pourquoi je donne cet exemple? Parce que ça me paraît très intéressant de voir comment on respecte, comment on honore un certain nombre de dimensions de respect vis-à-vis de la femme. Je ne parlais pas de dignité, puisque c'est un mot qui vous choque. Et je trouve qu'on ne doit pas rejeter de la main la réflexion sur la femme qui porte, éventuellement son conjoint, les autres enfants. C'est des éléments importants, sur l'enfant à naître. Il y a tout un ensemble d'éléments, c'est ça qu'on mobilise au niveau de la réflexion. Donc si on parle d'une démarche éthique, il faut qu'on englobe les éléments. C'est-à-dire, vous avez la femme, vous avez le couple, vous avez les enfants, et puis l'enfant qui va naître.
C'est précisément le cas, puisque évidemment, on doit s'assurer que l'entourage familial est porteur aussi du projet, que si cette femme qui porte un enfant est mariée, eh bien son mari s'engage avec elle, ses enfants s'engagent avec elle. Sûr. Moi, par exemple, dans mon cas, tout le monde était là. L'accouchement, il y avait même les parents de la femme de Michel qui a accouché. Enfin, c'était une fête. La photo, elle trône encore sur sa cheminée. C'est comme un trophée. Elle a fait quelque chose de valorisant dans sa vie. Et on a aussi ces visions qui existent.
Il y a quelque chose quand même à signaler aussi, c'est que c'est différent de porter l'enfant avec ses propres gamètes et de porter un enfant qui a été fait par FIV et qui n'est pas justement, qui n'a pas la gamète. Donc c'est pour ça que moi, je
crois savoir aux États-Unis qu'il faut absolument que la femme qui portera l'enfant
soit différente.
Exactement.
Elle exactement. Peut pas porter l'ADN, c'est une garantie. Le même
exactement.
ADN,
parce qu'on peut faire confiance aux femmes exactement. D'aller au bout de cette démarche qui est une démarche altruiste et qui est d'une grande dignité. Je ne suis pas du tout fâchée avec cette notion, au contraire. Mais effectivement, pour avoir une garantie, notamment, je pense, légale, c'est mieux effectivement de décorréler, c'est-à-dire de faire un don d'ovocyte et d'avoir une autre personne, donc une gestatrice, qui ne sera pas la même, puisqu'effectivement, sinon les...
Et il y a un point vraiment très important par rapport aux États-Unis. C'est la même chose pour le don d'organes. C'est qu'on peut connaître le donneur. Alors que dans les lois de bioéthique françaises, dans les règles, c'est l'anonymat. Ça a l'air de rien. Mais il y a tout un ensemble de points. Je ne vous parle pas de la gratuité, de l'anonymat, tout un ensemble de points.
Ben, ça a changé, hein. C'est plus l'anonymat, vous le savez. Non, mais... Pendant les dernières lois de bioéthique, l'anonymat est sauté à la majorité.
Suivi. Non, oui. J'ai quand même suivi l'affaire.
On ne peut pas dire que c'est l'anonymat.
Non. Ce que je veux dire par là, le don d'organes, quand vous donnez un organe, vous ne destinez pas à une personne en particulier.
C'est le don fléché.
Il y a une répartition, il y a une répartition qui est faite par l'Agence de la biomédecine selon un certain nombre de critères.
C'est majoritairement anonyme, mais d'ailleurs, rien n'empêche que pour la GPA, il y ait les deux, c'est-à-dire qu'on puisse faire une GPA de manière totalement anonyme, comme pour les dons aujourd'hui.
Fléché ou non fléché, c'est
et parfois
c'est
le fléché si
aussi,
on connaît quelqu'un, effectivement, de précis, etc.
Non, mais l'anonymat, c'est pas rien, parce qu'on voit en matière d'assistance médicale à la procréation, quand un couple de femmes. Quand l'une veut donner l'ovocyte à l'autre et le repas, on voit les problèmes que ça pose. Donc je dirais que, et je termine là-dessus, moi je ne suis pas un opposé à quoi que ce soit. Questionnant les enjeux et les conséquences.
Oui.
Et c'est ça la responsabilité éthique.
Mais vous
ensuite, c'est du politique. Et un dernier point, quand vous avez parlé de Gabriel Attal, et on le voit sur la fin de vie, ce n'est pas une affaire uniquement de débat politique, c'est un débat de société, effectivement.
Ah bah, on est d'accord.
Voilà.
J'ai juste dit que c'est lui qui avait lancé le débat.
Est-ce que ça doit être politicien, c'est-à-dire considérer que ça va être.
Non, mais
est-ce que ça doit être uniquement un enjeu politicien, comme on voit aujourd'hui sur le débat sur la fin de vie? Ou un enjeu de société. Comment on en débat? C'est une vraie... Il n'y a pas de
mais
débat.
Le problème des enjeux de société, c'est que souvent, c'est les gens les plus énervés qui vont l'emporter. C'est-à-dire, en l'occurrence,
c'est un peu rapide de le dire.
On a eu la manif pour tous qui a quand même vraiment été très rétrograde. Ça a été très, très douloureux de faire passer cette loi. Et je crains que sur la question de la GPA, les personnes notamment très religieuses, dans un contexte de conservatisme qui revient. Je contextualise, je ne simplifie pas. Dans un contexte où les conservateurs font un petit peu. Je pense d'ailleurs que la résolution de l'ONU, enfin, c'est pas une résolution, mais le rapport est complètement dans ce sens-là. C'est-à-dire, il y a une offensive des conservateurs
et encore une fois,
qu'il faut y faire attention.
Après, c'est ça qui est intéressant. Le partage, il se fait un petit peu différemment. Et moi, je trouve que l'exemple américain est assez exemplaire dans un pays qui peut être extrêmement puritain, très violemment conservateur. La question de l'avortement est remise en cause, pas celle de la GPA. Et c'est une réflexion qui me semble intéressante. Les enfants, les bébés, dans cette histoire-là, c'est la question de beaucoup de nos auditeurs et c'est la vôtre aussi, Frédéric. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Je pense que vous m'entendez.
Ouais, très bien. On vous écoute.
Voilà. Bah, écoutez, justement, ma réflexion était là-dessus. Je me posais la question, comment vont ressentir, vivre les enfants issus de GPA ? Est-ce que, quels sont l'état des réflexions à ce propos ?
Alors, au-delà des réflexions, l'état des études même, parce que la réflexion, c'est une chose, mais quelles sont la médecine dit quoi ? Est-ce que ça existe,
Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur le sujet, notamment en Angleterre, également en Australie, et dans les dernières études, on voit que ces enfants ont j'allais dire, les mêmes joies et les mêmes problèmes que les autres, donc il n'y a pas de sujet particulier. Si, peut-être sur une étude australienne, on indiquait qu'ils avaient souvent une ouverture d'esprit beaucoup plus vive sur la diversité. Tiens donc, c'est vrai que, par exemple, je pense à mes enfants, ils sont peut-être un peu en âge avancé sur les techniques de procréation médicalement assistée, ils connaissent bien le sujet.
Qu'ils ont un peu de kidney, hein, mais bon...
Oui, mais pour répondre aussi à votre auditrice... précédente, on recommande énormément à l'association des familles homoparentales de faire un livre de naissance, et dans ce livre de naissance qu'on montre pourquoi pas à chaque anniversaire des enfants, eh bien, il y a la donneuse, il y a celle qui a porté, il y a les prénoms, il y a les photos. On veut remplir toutes ces cases, toute cette histoire narrative de la construction personnelle de l'enfant, parce que c'est la vie de l'enfant dont il s'agit. Et il faut absolument qu'il puisse avoir ces outils plus tard pour effectivement se construire, parce que je pense que partir sur des mensonges, comme ça a pu être le cas pendant de nombreuses années, sur notamment le don de sperme en France, c'est là où ça peut poser des problèmes à ses enfants. Mais pour répondre à votre auditrice, ses enfants vont très bien et il n'y a pas de différence particulière avec les autres.
Dans votre réflexion, votre cheminement, Ariane Nicolas, que vous racontez dans cette tribune dans Philosophie, vous faites la comparaison avec l'accouchement sous X. En fait, et quand je pense à la question de Frédéric, je pense aussi un peu à la même chose. Au moment où on a le droit, évidemment, d'accoucher sous X, l'arrachement de l'enfant, au fond, est le même. Mais cette question ne se la pose pas lorsqu'on parle de l'accouchement sous X.
L'accouchement sous X.
Là aussi, c'est intéressant dans là où on est notre réflexion.
Je pense que c'est à peu près aussi vieux que presque que l'humanité. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcé, heureusement, toutes les femmes à chaque fois à rester rivées à leur enfant jusqu'à la fin de leur jour. Parce que, voilà, pour diverses raisons, que ce soit en général, évidemment, ce sont des raisons qui sont plutôt contraintes. Mais ce qui est très beau, c'est de voir que, en fait, l'enfant, il n'appartient pas qu'à la mère. Et même quand il est dans le ventre de la mère, il est déjà un petit être social. Et en tant que citoyen en devenir, la société a un droit de regard sur lui. Voilà. Et c'est pour ça que l'accouchement sous X, c'est quelque chose qui est douloureux, j'imagine, pour la mère qui accouche. Mais c'est évidemment un don du ciel quand il y a des personnes. Moi, j'ai de la famille qui a adopté. Et je dois dire que je remercie cette femme qui est anonyme et qui le restera. Et il faut que ce soit le cas parce que cette personne de mon entourage a pu adopter de petites filles et ça la comble. Mais c'est vrai qu'la petite distinction, je dirais presque philosophique, c'est qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais ça, c'est un accident, c'est une conséquence de la vie. Et ça n'est pas un but. Et je pense que c'est une distinction qui tombe très vite. On voit que, de toute façon, le résultat prime sur...
Je comprends ce que vous dites, mais la procréation, c'est Emmanuel. Une chose, la gestation, c'est autre chose. Et tous les spécialistes de ces questions vous disent qu'il se passe quand même quelque chose entre l'enfant et la mère qu'il porte. Et au niveau biologique, au niveau psychologique, on parle à l'enfant, il est sensible à un environnement. Ces éléments ne sont pas non plus totalement à négliger.
Non,
alors,
mais
je ne dis pas ensuite que ça a des conséquences péjoratives sur la naissance d'enfants. Mais je dirais, tous ces éléments de finesse doivent être discutés, doivent être abordés.
Mais vous ne croyez pas que, moi, alors je peux en parler très tranquillement, parce que je n'ai ni l'intention, ni l'âge surtout, mais quand on sait qu'on est en train de porter un enfant pour quelqu'un d'autre, on lui dit des choses différentes, y compris in utero, que ce qu'on dirait à l'enfant qu'on aura avec nous.
Enfin, vous voyez, pas anodine.
Donc ce que je veux dire, c'est que j'entends l'argument sur le psychologique.
Non, mais je comprends ce que vous dites. Mais sans faire des extensions, j'aimerais juste observer si c'est une femme qui est en situation de précarité aux Philippines, et si c'est une femme très intégrée aux États-Unis, qui le fait aussi, et je ne dirais pas que c'est que l'argent, parce que je crois qu'effectivement, et vous l'avez dit, il y a une dimension de solidarité entre femmes.
Tout à fait.
Et je l'ai vu. J'ai eu des enfants, je ne vois pas au nom de quoi, je ne me permettrai pas de permettre à une autre d'en avoir. Tout ça, j'arrive à le comprendre. Mais je dirais que j'entrais un peu dans la finesse des choses, d'une certaine façon, et je dirais que, pour moi, l'altruisme est quelque chose d'important. Le don d'organes, c'est quelque chose d'important. Le don du corps, puisque ce n'est pas un organe, une partie de son corps qu'on met à la disposition de l'autre. Tout ça, j'arrive à trouver que ça peut avoir du sens et de la valeur, même en termes de sollicitude et de solidarité. La vraie question, et vous la posez, et elle restera une énigme pour moi, c'est comment encadrer. Et comment encadrer, et au nom de quel principe on encadre, et c'est... quel type de limite.
Et c'est intéressant, parce que c'est tout le principe de ce débat, et c'est tout le principe de la, l'espèce de ballon qu'a lancé Gabriel Attal. Oui, est-ce qu'on est capable d'encadrer?
Et je termine juste sur un point, parce
encadrer,
que tout à l'heure,
on n'est pas les seuls à y avoir songé.
Oui, hein. Mais le vrai débat en matière de bioéthique en général, c'est est-ce qu'on est ringard, rétrograde, et comme vous dites, manif pour tous, ou est-ce qu'on est, qu'on est progressiste. Et moi, je me refuse d'être dans un point de cette nature. Je pense que la responsabilité d'une société, c'est la dialectique, c'est le débat d'idées, et c'est aussi la responsabilité pour celles et ceux qui vont dépendre de décisions qu'on va prendre pour eux, et notamment les enfants, et puis aussi la fratrie autour de la femme qui a porté. Je veux dire que n'oublions pas qu'il y a de la complexité, et ne me renvoyez pas que je suis ringard parce que je ne suis pas progressiste.
J'ai jamais dit ça. Voilà. C'est un petit en peu revanche, on a un retour d'expérience, parce qu'il y a maintenant beaucoup de pays qui pratiquent la GPA, et il faut regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas, et dans ce cas-là, on saura effectivement ce qu'il faut éviter de faire.
On pourrait en avoir une rien que pour nous, ou pas, et c'est bien le sens de ce débat-là. Il nous reste peu de temps, mais je voudrais quand même qu'on écoute une note vocale. Je ne sais plus comment elle s'appelle, la dame de la note vocale. On l'écoute. Caroline.
Bonjour, j'ai 57 ans, j'ai eu 3 enfants et je me rends compte aujourd'hui à la ménopause que 3 grossesses, c'est pas rien. Et je pense aux femmes qui portent des enfants dans la fleur de l'âge et qui vont vivre les conséquences de la grossesse longtemps après. Et que deviennent-elles? Est-ce qu'on leur offre les soins adaptés, kinés, etc.?
Ça, c'est aussi un argument de l'encadrement, d'ailleurs vous l'avez évoqué Ariane Nicolas, un argument de l'encadrement c'est combien, non mais vraiment, enfin je veux dire, pour le coup les femmes américaines font ce qu'elles veulent jusqu'à l'âge où elles peuvent continuer à procréer, on peut aussi fixer une limite, un enfant, 2 enfants, pas plus en fait, ça existe. Ça, non
oui, mais ça fait justement partie du débat qu'on peut parfaitement organiser en France, à partir du moment où il est pacifique et on a, je veux dire, pour répondre à Monsieur Hirsch, on a évidemment des anthropologues, des philosophes, des sociologues, des psychanalystes qui sont pour ce débat et qui sont pour une réflexion aboutie sur l'organisation de la GPA. Alors on a aussi ceux qui sont contre, et je dirais les femmes qui se défendent en disant « mais c'est horrible, c'est de la marchandisation », mais on va forcer aucune femme, si jamais la loi arrive un jour, on va forcer aucune femme à porter un enfant, que ça soit bien clair. Celles qui peuvent le faire, le feront, mais celles qui ne veulent pas et trouvent ça horrible, elles ne le feront pas. C'est comme aujourd'hui sur le don d'ovocytes, on force pas toutes les femmes à donner leurs ovocytes.
Ça ne marchera que si on arrive dans le même temps à faire en sorte que les femmes aux Philippines ou ailleurs ne sont plus sollicitées par nous, en fait.
Oui, et puis il faut une très bonne information, il faut un très bon suivi, et il faut que les femmes agissent en connaissance de cause. C'est-à-dire que, il faut le dire quand même aussi, il y a un petit risque, c'est une grossesse, ça n'est pas rien. Voilà, il y a énormément de conséquences pour le corps qui sont parfois dommageables, heureusement pas toujours. Mais si les femmes le font en connaissance de cause et qu'elles sont bien accompagnées, dans ce cas-là...
C'est leur liberté.
Il y a des risques, vous parlez de liberté.
On a fini, voilà. Pardonnez-moi monsieur, je suis vraiment désolé, on l'a fini volontiers.
Pour la prochaine fois quand on aura la loi.
Eh bien écoutez, on n'y est pas. Donc avec grand plaisir, le débat il est encore ouvert. Je voudrais quand même signaler que l'IA et moi, c'est la une de Philosophie Magazine pour ce mois-ci. Et je vous remercie.
Merci.